Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il noter les journalistes ? Tout avait pourtant bien commencé, avec une note de 4,5 sur 5. Le site topjournaliste.com avait fait de moi un des journalistes les mieux notés de la semaine par les internautes. Des lauriers très vite fanés, ma moyenne est tombée à 1,73. Toutes périodes confondues, ce sont Olivier Delamarche de BFM Business, Nathalie Renoux de M6 et Philippe Tesson du Figaro qui forment le trio de tête. Éric Zemmour y est également très apprécié, en particulier pour sa maîtrise des sujets et la pertinence de ses analyses. Alors, s'il ne faut pas prendre trop au sérieux ce genre de site, topjournaliste.com n'en est pas moins un bon révélateur, à la fois des attentes d'une partie du public qui y trouve un espace pour s'exprimer sur le travail des journalistes, mais aussi des limites d'un tel exercice. Il ne suffit pas d'avoir une opinion sur les médias pour que celle-ci soit toujours pertinente. Faut-il pour autant se priver du retour des lecteurs, des auditeurs ? La réponse est bien entendu négative et elle l'est d'autant plus que la défiance à l'égard des médias progresse, tout support confondu. Certaines entreprises de presse comme Radio France ont un médiateur qui assure ce lien. Au-delà, une réflexion est en cours en vue de la création d'un conseil de déontologie des journalistes. Alors est-ce la bonne voie à suivre ? Et au fait, faut-il noter les journalistes ? Ben voilà une question que nous nous posons et que nous posons comme chaque dernier jeudi du mois. Enfin, c'est pas toujours la même, hein, mais c'est chaque dernier jeudi du mois, c'est notre partenariat avec le journal La Croix, représenté ce soir par un de ses rédacteurs en chef, François Ehrenwein. Bonsoir.
Bonsoir.
Si je commence avec vous et pas avec nos invités, c'est pour préciser peut-être la particularité de ce partenariat. Il y a un mois, précisément, on parlait avec Guillaume Goubert, directeur du journal du baromètre annuel de La Croix sur la confiance qu'ont les Français dans les médias. Et puis la semaine dernière a été organisé à Montrouge un événement intitulé « Médias citoyens, et si on se parlait ?» Et François Ehrenwein, ce qu'il en est ressorti, c'est que déjà il y avait un besoin effectivement d'échanger et aussi un besoin peut-être, comment dire, de voir les citoyens s'impliquer davantage dans le contrôle, on pourrait dire, des médias.
Le contrôle, je ne sais pas, mais en tous les cas, je pense pour les deux ans à venir, un des grands débats pour tous les médias sera comment associer nos lecteurs, téléspectateurs, internautes à la production de l'information. Les formes peuvent être variables, elles restent à inventer, des outils existent notamment avec Internet, mais en tous les cas on ne pourra pas rester dans une logique top-down et la conviction que si on fait un bon journal, on trouvera des lecteurs. La fabrication de l'information va être de plus en plus relationnelle et je pense que c'est une bonne nouvelle.
Voilà, et c'était justement l'objet de ces rencontres qui se sont traduites notamment par des ateliers, desquels ateliers ont émergé un certain nombre de propositions qu'on va examiner ce soir en compagnie alors de deux invités. Leïla de Commarmont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste aux Échos. On a l'occasion de temps en temps de vous inviter dans l'émission pour parler des questions sociales, mais là c'est en tant que présidente de la Société des journalistes du journal Les Échos que nous vous avons invité pour discuter. Quelqu'un qui était présent à Montrouge mardi dernier, c'est Pierre Gans, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vice-président de l'Observatoire de déontologie de l'information et je renvoie au livre que vous avez publié aux éditions Rive-Neuve, Chronique de déontologie. Alors si vous voulez bien, on va commencer par peut-être évacuer la question qui est la question qu'on a retenue pour intituler l'émission ce soir. Faut-il noter les journalistes ? J'évoquais ce site topjournaliste.com. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée a priori saugrenue de noter les journalistes ? Puis finalement, est-ce que après tout on note les restaurants, on note les chauffeurs de taxi, pourquoi on ne noterait pas les journalistes ?
Ah, on est dans une époque de notation généralisée, je ne suis pas certain que toutes ces notations aient réellement un sens. Noter les journalistes, la question est amusante et absurde. Absurde parce que je ne vois pas très bien sur quels critères on les noterait. J'ai vu que vos notes, mon pauvre, avaient monté, descendu, peut-être vont-elles remonter ce soir, on ne sait pas.
Donc ou alors descendre encore plus bas.
Ou descendre plus bas si c'est possible. je ne vois pas très bien où ça peut aller, mais en fait, elle est intéressante parce que elle nous envoie une question. Elle nous envoie la question qui est vous n'êtes pas simplement des gens qui savez, qui dites des choses, vous avez à parler avec nous. Vous avez, je ne dirais pas des comptes à nous rendre, mais des explications à nous donner. À travers, j'étais donc présent à Montrouge, à travers ce que j'ai entendu dans les ateliers auxquels j'ai participé d'une façon discrète, mais c'était très intéressant d'entendre les gens dire mais on ne comprend pas comment c'est fait, mais pourquoi ils ont fait comme ça, et est-ce qu'ils sont soumis au pouvoir politique ou autre. On avait toute une série de questions. Et noter les journalistes, c'est une façon de ramasser tout ça en disant « expliquez-vous ». Et je pense que c'est ça la question qui nous est lancée à la figure aujourd'hui à nous journalistes. C'est descendez un peu de votre tour d'ivoire, venez parler avec nous, entendez nos critiques, entendez nos reproches, prenez-les en compte, parce que parfois ils sont justifiés. Dites-nous pourquoi vous ne les prenez pas en compte. C'est ça ce qu'il y a dans cette question.
Alors, il faut préciser que lors de cette soirée, l'idée de noter les journalistes individuellement n'a pas émergé. Mais par contre, il y a un groupe qui a proposé de créer une agence de notation, alors non pas des journalistes, mais des médias, pour dire, donner des labels peut-être de qualité aux différents médias pour pouvoir mieux les choisir, sans doute là aussi, comme on donne, par exemple, du label bio, j'y pense, parce que hier, on avait une émission qui était consacrée à l'agriculture. Bon, notez les journalistes, notez les médias, Leïla de Commarmont.
Pourquoi faire ? C'est quoi l'objectif ? C'est de labelliser, comme vous dites, mais labelliser quoi ? Une qualité de l'information ? Comment est-ce qu'on évalue une qualité de l'information ? Au nombre de personnes qu'on contacte pour faire un article ? Au fait qu'on ait donné la parole à tout le monde ? Donner la parole à tout le monde, ça peut aussi vouloir dire donner la parole à des gens qui disent des contre-vérités. Donc, c'est quoi l'équilibre d'un papier ? Et c'est quoi, en final, l'objectif ? C'est de mettre en cause, en fait, la valeur de l'information qui est transmise ?
C'est quoi la qualité d'un papier, tiens, par exemple, pour vous, Leïla de Commarmont ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous ferait, vous, en tant que journaliste, par ailleurs lectriste, j'imagine, tel article est de qualité et tel autre l'est moins ?
La qualité d'un papier, c'est de pouvoir expliquer des phénomènes complexes de façon suffisamment simple pour qu'on puisse en mesurer tous les enjeux et se faire son point de vue. Et le sujet n'est pas tant pour moi la qualité d'un papier, mais que l'accès à une diversité d'informations. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans le débat, puisqu'on mélange dans un grand tout les journalistes, les journaux, la presse, alors qu'on a des supports de presse différents. Et que d'ailleurs, moi par exemple, je conseille toujours de lire plusieurs journaux d'information. On a un sujet coût, cela dit. Mais parce que le lecteur, c'est pas un consommateur de yaourt. Le lecteur, il a un cerveau, il a une pensée et il doit s'alimenter de toutes ces informations.
Est-ce que vous ne pensez pas tous les deux que ce désir de noter les journalistes qui s'expriment parfois émane surtout de tranches, de classes sociales, de gens qui estiment que leur parole n'est pas suffisamment portée par les médias. Ce désir de noter, c'est peut-être simplement l'inquiétude de ceux qui sont hors des radars médiatiques, de ceux dont on ne parle jamais, les gilets jaunes dans leur critique des médias, portaient cette revendication, nos expériences, nos vies ne sont jamais l'objet de papiers documentés dans les différents journaux, sur les télés ou radios. Je pense, le désir de noter les journalistes, c'est certainement pas pour leur attribuer des bonnes notes. La logique de la notation, c'est beaucoup plus probablement pour les sanctionner pour un boulot qu'ils n'auraient pas fait.
Alors Pierre Gans, et ensuite Leïla.
Oui, je pense que vous avez raison. Ce qui s'est exprimé ou qui s'exprime là, c'est aussi une demande d'intérêt. Venez regarder qui nous sommes. Alors toute la crise des gilets jaunes, elle est intéressante pour nous journalistes. Parce que les rédactions ont beau jeu de dire mais on a fait des tas de choses, on nous cite des articles qui ont été faits dans la presse quotidienne ou quelques reportages télévisés le regard qui a été porté sur les gilets jaunes eux-mêmes. Mais il a fallu qu'ils descendent dans la rue quand même, ces gens-là, pour qu'on s'intéresse beaucoup à eux, ou pour qu'on s'intéresse vraiment à eux. Je vais être méchant peut-être avec certains confrères, mais je suis plus dans le métier, donc je risque plus rien et j'aurai une note zéro. Moi, je suis toujours fasciné de voir des chaînes de télévision, à certaines époques de l'année, multiplier les sujets sur les sports d'hiver. Combien de Français partent aux sports d'hiver ? Je dis pas qu'il faut pas en parler, mais la place que ça prend dans les journaux télévisés me surprend toujours. Par contre, ce qui se passe dans le monde rural, je vais pas dire les balles populaires, il y en a de moins en moins, mais les activités culturelles, les activités associatives qu'il y a dans le monde rural, dans les petites villes, on n'en parle pratiquement jamais. Alors c'est un exemple trivial qui ne démontre pas grand-chose, mais qui montre simplement ce malaise qu'il peut y avoir. Et là, je pense que les gens ont eu pas tort. Après, ils ont pris des formes quelquefois qui sont totalement inacceptables, bien sûr, dans leurs revendications. Mais ils n'ont pas eu tort d'envoyer cette image. Ce que je souhaite, c'est que la profession ne laisse pas le soufflet retomber. C'est-à-dire que l'intérêt pour des gens auxquels on ne s'intéressait sans doute pas assez, on pourrait dire les femmes, les gens d'origine diverse, ce qu'on appelle les quartiers, d'une expression que je n'aime pas du tout, il ne faudrait pas que ça retombe après pour revenir au petit intérêt central et classique.
Un des intérêts de ce mouvement des Gilets jaunes, Leïla de Commarmont, ils sont nombreux, bien entendu, mais ça peut être pour la profession journalistique de se reposer de bonnes questions sur de quoi on parle et de qui on parle et comment est-ce qu'on propose justement peut-être une information qui serait plus équilibrée, plus diversifiée.
Alors, moi, je mets quand même en garde contre un problème, c'est qui lit la presse aujourd'hui. C'est-à-dire que y a une forme, je pense, aussi de fantasme du journaliste qui serait dans le... qui serait à l'égal des décideurs, quelqu'un qui aurait tout pouvoir et donnerait des leçons. Je pense qu'il y a, une confusion parce que malheureusement les Français ne lisent plus la presse. C'est quand même ça la réalité. Et donc, qu'est-ce qu'ils voient beaucoup ? Ils voient les éditorialistes qui sont des journalistes d'un genre extrêmement particulier, qui livrent des opinions. Avec le développement des télévisions H24, avec les réseaux sociaux, tout ça tourne en boucle. On a l'identification, par exemple, de l'écharpe rouge et des propos qui peuvent être parfois, y compris, insultants pour des gens. Et la difficulté sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est que, sans nier l'enjeu de la confiance, hein, moi, je demande quand même qu'on fasse très attention à cet autre enjeu qui est l'enjeu du fantasme de ceux qui savent, de ceux qui auraient tout pouvoir. Et la réalité du travail des journalistes n'est pas celle-là. Quand vous dites les manifestations locales, on a une presse locale aujourd'hui en France qui continue, qui d'ailleurs, elle, est encore lue en bonne partie. Cette presse locale, elle en rend compte. Donc ce besoin qui est exprimé, moi, je le comprends, mais en même temps, je m'en étonne. On a en revanche des télévisions. Je pense que les gens regardent beaucoup la télévision en continu et que tout ça donne une vision déformée de la réalité de la presse.
Alors, il y a un besoin de représentation, il y a un besoin d'explication, donc de représentation, c'est-à-dire de se sentir représenté par les médias.
D'effet miroir, peut-être, aussi.
Oui. D'explication. C'est ce qu'on a vu notamment dans cette rencontre à Montrouge de ce qu'est le métier de journaliste. Mais il y a aussi un besoin d'interpellation, c'est-à-dire d'avoir la capacité de, quand on n'est pas d'accord, de le dire et de le dire aux médias et aux journalistes. Est-ce que c'est ce à quoi sert, par exemple, l'Observatoire de la déontologie de l'information dont vous êtes le vice-président, Pierre Gans?
Alors, l'Observatoire ne peut pas être interpellé pour l'instant. On reçoit quelques courriels de personnes qui nous posent des questions auxquelles on essaie de répondre, mais nous avons choisi, n'ayant pas peut-être une assise suffisamment large aujourd'hui, de ne pas fonctionner comme un conseil de presse qui, lui, peut être interrogé par le public sur ces questions.
Donc vous faites quoi, vous, alors?
Alors nous, on fait une veille annuelle permanente de la déontologie de l'information, du contenu des journaux, mais non pas parce qu'ils ont parlé de tel ou tel sujet, mais s'ils ont, en gros, respecté les règles de la bonne information, de la bonne façon de faire l'information. On publie un rapport annuel, on intervient le plus possible, à droite, à gauche, dans les collèges, etc., etc., pour expliquer ce que c'est, non pas que l'information, mais la déontologie de l'information. Ce qui était frappant l'autre jour, et ce qui est très frappant quand on parle de ça, c'est que beaucoup de gens ne savent absolument pas comment on fait de l'information, comment on fabrique un journal, et confondent allègrement bonne pratique professionnelle et ligne éditoriale. La bonne pratique professionnelle que vous avez par exemple aux Échos, elle est la vôtre, elle est la mienne, elle est celle que vous avez ici à France Culture. Les lignes éditoriales peuvent être différentes. Et les gens sont tout de suite à parler de déontologie ou de pratique professionnelle parce qu'ils ne sont pas d'accord avec des choix éditoriaux. Les choix éditoriaux, ils sont libres, ils appartiennent aux rédactions, c'est aux rédactions de les décider, de les présenter au public et de les assumer. Le respect des pratiques professionnelles de la déontologie, ça se recoupe de média en média, est à peu près la même chose. Et c'est là-dessus que nous intervenons. C'est là-dessus que pourrait intervenir, on y viendra sans doute tout à l'heure, un conseil de presse s'il était créé.
Voilà, on va y arriver très vite, mais sur la question justement alors de la distinction entre ce qu'est la ligne éditoriale et de ce que sont les règles de déontologie, vous qui présidez donc Leïla de Commarmont, la Société des journalistes des Échos, est-ce que dans cette SDJ, puisque c'est comme ça qu'on les appelle hein, dans les rédactions, les SDJ, on traite aussi bien de l'éditorial et de la déontologie. Est-ce que finalement cette distinction, elle est si claire que ça, y compris pour les journalistes?
Elle est très claire aux Échos. Moi, je parle pour les Échos, je peux pas généraliser. C'est justement un des problèmes, je pense, qui peut toucher à l'image de la presse, c'est qu'il faut parler de ce qu'on connaît. Donc, c'est ce que je fais.
Et, même si vous êtes en contact avec d'autres sociétés de journalistes,
sûr,
d'autres médias.
Elle est très claire aux Échos. Nous avons des pages d'information et nous avons des pages qui sont les pages idées dans lesquelles s'expriment nos éditorialistes qui donnent des points de vue. Dans les pages d'information, nous faisons notre travail d'information, travail de journaliste. Nous donnons les éléments nécessaires au décryptage des événements. Et je pense que les lecteurs, par exemple, qui se retrouvent à regarder uniquement la télévision avec des sujets très brefs et de la répétition liée au H24, peuvent se retrouver avec une vision tronquée de la réalité de l'exercice de l'information dans notre pays.
Il y a la nécessité, je crois, de faire un gros travail vers le public pour leur expliquer comment se fabrique l'information. Une initiative comme celle que j'avais prise avec la Croix, cette rencontre à Montrouge, va dans ce sens-là et il faut les multiplier.
Mais on évoquait Montrouge à l'instant. Ce qui était passionnant de voir, c'est aussi des gens bien intentionnés à l'égard des médias qui invitaient à cette soirée. On était aussi obligé de constater qu'il y avait une profonde ignorance du fonctionnement des médias, de la manière dont on fait ce métier. Mais je voudrais rebondir, elle est là, par rapport à quelque chose que vous disiez tout à l'heure. Qui est-ce qui lit les journaux? On a évoqué tout à l'heure le baromètre annuel de la Croix, le 32e, il fait référence donc. Et on découvre aussi que le jugement porté sur le fonctionnement des journalistes, alors même les idées fausses sont des faits vrais, on a à se colter cet aspect-là des choses. Et là, c'est assez terrifiant. La confiance dans les médias et, la crédibilité ne cesse de baisser. Donc la question que je vous pose, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant, à partir de ce baromètre, mais tendanciellement il prolonge la courbe installée il y a 32 ans, de prendre sérieusement en compte les interpellations des Français sur le fonctionnement des médias?
Je pense qu'on a l'impression que les médias n'ont pas une vie interne forte. Et par exemple, le fait que de nombreux médias aient ressenti, de nombreuses rédactions, aient ressenti le besoin de créer des sociétés des journalistes, dont l'objet est de travailler sur la déontologie et l'indépendance des journaux, c'est le signal fort de ce besoin ressenti, y compris par les journalistes, de travailler, de faire un travail qui puisse effectivement être un véritable travail d'information.
C'est pas un travail de défense des intérêts que de créer des sociétés de journalistes.
C'est un travail d'abord extrêmement difficile parce que justement on touche à des sujets qui sont des sujets ultra sensibles dans les rédactions et qui imposent de se confronter à des directions d'entreprise, à des directions de rédaction et de mettre les pieds dans le plat. Donc c'est au contraire un travail extrêmement difficile. Et ce besoin, si on a par exemple sur un récent appel réuni 40 sociétés de journalistes, c'est que ce besoin est un besoin réel dans les rédactions. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'il n'y a aucune curiosité en réalité sur, par exemple, ce mouvement qui, pour moi, est un mouvement extrêmement important dans les rédactions, qui est une prise de conscience de la nécessité de travailler dessus autrement qu'on l'avait fait jusqu'à présent, parce qu'on est dans une situation difficile. On n'a pas parlé du modèle économique de la presse, mais on ne peut pas parler de toutes ces questions sans mesurer les problèmes d'équilibre économique, les mutations énormes qui se produisent dans ce secteur, l'arrivée du web, l'arrivée des réseaux et la multiplication à la fois des sources d'informations et aussi l'enjeu de la lecture par les internautes d'autres sources. Vous parliez de fake news, par exemple.
Pierre Grance, vous qui observez quand même depuis quelques années le monde des journalistes, est-ce que vous avez l'impression que cette prise de conscience, elle gagne du terrain aujourd'hui? En tout cas, cette idée, comme le disait François Arnenwein, de la nécessité d'être davantage, ouvert vers les demandes du public, voire aussi, et de prise en compte de leurs récriminations quand il y en a, parce qu'il y en a.
Alors, deux choses. La première, c'est que dans une rédaction comme celle de La Croix ou comme celle des Échos, c'est relativement confortable, même s'il y a des difficultés, j'en suis sûr, de prendre le temps de regarder ces problèmes-là. Il faut penser, vous parlez des quotidiens régionaux tout à l'heure, beaucoup sont en crise, les hebdomadaires régionaux ont des petites rédactions. On n'a pas toujours le temps dans une rédaction et la force de mettre en priorité le problème de déontologie, le problème de dialogue avec le public, parce qu'il faut d'abord se battre pour son emploi, se battre pour pour être correctement payé, se battre pour avoir des piges qui ne sont pas des piges payées au lance-pierre, etc., etc. Donc ça, c'est une réalité aussi. La réalité économique, elle pèse aussi sur les journalistes. Et donc, quelquefois, la priorité des combats, par exemple dans les agences syndicales, c'est pas toujours, même s'ils prennent en charge ce combat sur la déontologie, c'est pas toujours ça, parce que il y a des problèmes immédiats. La deuxième chose que je voudrais dire là, c'est qu'effectivement, il faut que les journalistes prennent cela en charge et se mobilisent là-dessus. Vous prenez l'exemple des sociétés de journalistes, d'autres le font. Moi, je voudrais dire autre chose. Il faudrait aussi que les politiques arrêtent de taper à bras raccourcis sur les journalistes. J'ai été personnellement, et je ne suis pas le seul, très choqué d'entendre le premier personnage de l'État dire, certes en petit comité, mais pour être enregistré, « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité ». C'était au moment de l'affaire Benalla. Dire cela quand on est président de la République, c'est contribuer à nourrir dans le public l'idée que les journalistes et que la presse, ce sont des gens qui ne disent pas la vérité, qui ne cherchent pas la vérité. Je crois que sans vouloir faire du corporatisme, l'immense majorité de notre profession, au contraire, cherche la vérité. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait que les politiques prennent leurs responsabilités et arrêtent de jeter de l'huile sur le feu.
Alors lui n'est pas le premier personnage de l'État, même s'il aurait bien aimé l'être. Il a souvent la dent dure avec les journalistes et il fait partie de ceux, c'est pas le premier hein, d'ailleurs à l'avoir fait, mais en tout cas, de ceux qui plaident pour la création d'un conseil de déontologie du journalisme en France. Il avait même lancé une pétition en 2017, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il en reparlait sur LCP en juillet 2018.
Nous sommes tous d'accord pour dire qu'une information de qualité, c'est une des deux colonnes du temple républicain. L'autre, c'est l'école. Quel est le recours de la société sur ce sujet? Ou bien considère-t-on que c'est la seule profession par rapport à laquelle personne n'aurait jamais rien le droit de dire parce que les personnes qui le composent seraient sacrées et leur activité tout autant? Eh bien, je ne suis pas de cet avis. Or, aujourd'hui, nous n'avons qu'un recours, la justice. Lorsque nous ne sommes pas d'accord avec la façon avec laquelle une information est transcrite, c'est-à-dire un rapport de violence, parce qu'il s'agit de punir. On verra tout à l'heure, quand on viendra sur le conseil de déontologie, si vous êtes d'accord pour une méthode que les journalistes eux-mêmes ont proposé, je parle du SNJ, la création d'un conseil de déontologie, en sorte que ces choses-là puissent se résoudre de manière pacifique et civilisée entre gens qui ne veulent que le bien commun.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon, pour la création d'un conseil de déontologie du journalisme en France. Qu'en pensez-vous l'un et l'autre, Pierre Gans et Leïla de Commarmont? Et puis aussi de ce qu'il dit.
Alors il faudrait justement discuter avec lui de ce qu'il veut dire quand il dit ces choses-là. Est-ce que c'est la ligne éditoriale à laquelle il pense, ou est-ce que c'est justement le respect des bonnes normes professionnelles? Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui, donc je ne vais pas interpréter son propos, mais je crois que on est au cœur du souci. Cela dit, c'est intéressant d'entendre un homme politique reprendre à son compte une revendication qui est avancée par un certain nombre de gens. Il y a eu des associations, aujourd'hui l'ODI la met en avant. Qu'est-ce que ce serait? Je vais le faire très court. Un conseil de déontologie journalistique, ça serait une instance indépendante, totalement des pouvoirs politiques, ce qui n'est peut-être pas forcément dans la tête de tous ceux qui en parlent, qui regrouperait des journalistes, qui regrouperait des éditeurs, des responsables de journaux, des actionnaires, ou enfin en tout cas des représentants des propriétaires de journaux et des directions des journaux, et des représentants du public. Alors vous allez me dire comment on les choisit. On trouvera toujours des solutions, comment on veut le faire. Ne nous noyons pas là-dedans maintenant. Et ces gens-là auraient une triple mission, je dirais. La première, ça serait de répondre justement à des personnes, des particuliers ou bien des institutions qui poseraient une question, mais dans telle affaire, vous avez dit telle chose, est-ce que vous aviez bien vérifié, est-ce que vous avez bien fait votre travail de journaliste, non pas en sous-pesant les arguments, mais simplement dans la démarche. Vous savez, en Belgique où ça existe, le roi des Belges a un jour saisi le conseil de déontologie parce qu'il pensait avoir été mal mis en cause d'une façon pas correct sur le plan professionnel.
Monsieur, il s'est passé quoi?
Il y a eu une réponse qui a été donnée, c'était autour d'un livre. Et on lui a dit non, on a l'impression que le journaliste avait bien fait son travail. Le président de la République, quand il n'était pas content de la couverture de l'affaire Benalla, il aurait parfaitement pu saisir un conseil de déontologie journalistique qui lui aurait dit si les règles professionnelles avaient été respectées ou pas par les journaux qui avaient sorti le dossier Benalla. Je pensais qu'ils auraient dit oui, que ça avait été bien respecté. Première chose. Deuxièmement, un conseil de déontologie journalistique, il peut aussi jouer un rôle un petit peu en amont, être un peu médiateur. Quand un particulier considère par exemple qu'il est cité à tort dans une affaire, eh bien avant de commencer à aller devant les tribunaux, il pourrait obtenir une médiation et à part un dialogue que faciliterait le journal, parce que tout le monde n'a pas un médiateur dans les journaux. Il n'y a pas partout des SDJ. Il y a beaucoup d'endroits où ça permettrait, si vous voulez, cette facilitation entre le public et le média. Et puis, il peut avoir un rôle pédagogique vers les rédactions, avec petit à petit une jurisprudence qui se ferait sur le fonctionnement, y compris en adaptant la déontologie ou ses règles aux nouvelles pratiques professionnelles qui peuvent exister.
Vous pensez quoi de cette idée, Leïla de Commarmont ? Est-ce que c'est une idée qui est en discussion, en débat, parmi les sociétés de journalistes avec lesquelles vous dialoguez ?
Les points de vue sont très différents, en fait, sur le sujet. Je crois que deux choses dominent. On a une réelle préoccupation. Les journalistes, en général, ont une réelle préoccupation de cette crise de confiance qui existe, mais qui n'est pas qu'avec les journalistes. On peut parler des syndicats aussi. Avec une petite remarque, c'est que, par exemple, la crise de confiance sur les syndicats, elle est bien moins forte quand il y a des syndicats dans l'entreprise. Donc, on peut se dire que, en connaissant la façon dont est produite l'information, ça aiderait plutôt. D'autres pensent que c'est un danger parce que ça impliquerait une forme de retour de la censure. Moi, je vais vous dire, je pense que c'est pas le sujet, en fait. C'est-à-dire que moi, ma préoccupation, c'est qu'on puisse bien faire notre travail. Et si je prends des dossiers récents, par exemple, on a une loi qui s'appelle la loi secret des affaires qui est passée, dont on voit de premières manifestations. Le Monde a eu un souci parce que on lui a refusé la transmission de documents officiels du fait de cette loi. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse effectivement avoir accès à ces informations. Moi, ce qui m'importe, c'est que les journalistes qui font un remarquable travail d'investigation aient les moyens de le faire.
Et ça veut
on
dire
protège
que...
le secret des sources. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le débat, il est dévié des vrais sujets. Les vrais sujets, c'est par exemple moi qui ai fait un papier sur une entreprise ou sur une procédure juridique d'un syndicat contre une entreprise. L'entreprise refuse de me répondre. Je l'écris dans mon papier. Eh bien, j'écris qui n'a pas répondu. Eh bien, elle adresse un droit de réponse qui doit être publié dans le journal. Tout ça.
Dans un cas comme ça, un conseil de presse dirait qu'il n'a pas à le publier puisque vous avez fait votre travail comme il faut le faire.
Ben non, la loi dit que le droit de réponse est publiable obligatoirement. Le conseil de presse ne pourrait pas l'empêcher.
Mais pardonnez-moi, Leïla de Commarmont, est-ce que ça veut dire que vous considérez que si les journalistes ont les moyens de bien faire leur travail, ça répondra en partie à la défiance que peut avoir le public à l'égard des médias?
Tout à fait. Je pense qu'il faut travailler sur des garanties déontologiques. Par exemple, on a une loi, la loi Bloch. Tout le monde s'en fout en réalité. Cette loi Bloch, elle impose de décider de chartes éthiques pour tous les médias, hein, qui ont été bricolés à certains endroits, travaillés à d'autres. Elle impose des comités d'éthique. Comment est-il été nommé ? Ça peut ne servir à rien, un comité d'éthique, ou ça peut servir.
François Hernenweil, j'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs
médias,
aussi sur cette question. Je sais que vous avez une question, mais est-ce que vous avez aussi un avis, j'imagine que
moi,
oui, sur cette idée-là.
Je ne suis pas convaincu en profondeur de la nécessité d'externaliser dans les rédactions, à travers un conseil déontologique comme évoqué,
pourquoi
le contrôle de la production. Je pense que c'est à chaque rédaction de prendre son destin en main et d'exiger, par exemple, de sa direction, de ses actionnaires, que le projet éditorial soit explicitement affiché, avec expliquant, par exemple, quelles sont les relations avec le monde de la pub, quelles sont les pratiques en matière de respect de la dignité des personnes, etc. Ces documents, s'ils étaient écrits, seraient opposables par les auditeurs, téléspectateurs, internautes, aux rédactions qui sortiraient des clous. Mais je suis d'accord avec ce que disait Leïla tout à l'heure. Un des grands enjeux, c'est aussi de convaincre que les rédactions parviennent à être indépendantes de toutes les pressions qu'elles subissent. Vous parliez tout à l'heure de la loi secret des affaires, donc pression politique, pression des actionnaires aussi très forte. Dans le sondage que j'évoquais, le baromètre que j'évoquais tout à l'heure, une écrasante majorité de Français pensent que les médias et les journalistes ne sont ni indépendants des pouvoirs économiques, ni indépendants des pouvoirs politiques. Quand on connaît l'actionnariat de la presse quotidienne nationale en France, cette question, cette vision n'est pas forcément absurde. C'est aux rédactions elles-mêmes de montrer, à partir de la structure de l'actionnariat, qu'elles arrivent à se défendre dépression de leurs actionnaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Léla ?
Alors, Léa Idat-Comarmont, ensuite Pierre Gantz, et puis ensuite la question de France.
Je ne peux qu'être d'accord avec vous. On a une histoire aux Échos. On a été racheté par LVMH. On a eu un combat qui a été un combat extrêmement dur, dans lequel nous nous sommes partagés le travail avec les syndicats. Je pense que c'est très important aussi de dire ça. Les syndicats ont combattu pour le social, ont obtenu des garanties majeures. Et la Société des journalistes a négocié des garanties d'indépendance. Avec la mise en place d'un mécanisme un peu complexe, c'est pour ça que je parle des nominations de comités d'éthique, par exemple. Nous avons un comité d'indépendance éditoriale où nous conommons avec l'actionnaire deux administrateurs indépendants. Ces administrateurs indépendants, la SDJ, son objectif, c'est qu'ils soient vraiment indépendants. Et donc cette procédure de nomination, plus ensuite le fait que la composition de ce comité d'indépendance éditoriale met à la fois l'actionnaire et la Société des journalistes face à face avec ses administrateurs, c'est un enjeu majeur. Nous avons négocié la charte éthique des Échos et nous avons normalement des mécanismes qui nous permettent de l'appliquer. Alors je ne vais pas non plus être totalement naïve. C'est un combat quotidien. C'est un combat épuisant. C'est un combat qui parfois touche des sujets qu'on n'aurait pas imaginés. Par exemple, puisqu'on a un enjeu de financement, ce qu'on appelle le brand content, le contenu publicitaire déguisé, par exemple. C'est des sujets sur lesquels on est amené à intervenir aussi. Et ce combat-là, il faut donner les moyens aux rédactions. Alors, je parle Société des journalistes, mais il y a un vrai enjeu de reconnaissance juridique de l'existence des rédactions. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les directeurs de rédaction, ils doivent avoir le courage de défendre becs et ongles et de ne pas composer sur tous ces sujets. Et nous, Société des journalistes, on est là comme aiguillon, comme parfois aussi dans un combat pour contraindre à ce que ces éléments soient respectés.
Ça suppose, quand on est directeur de rédaction, qu'on pense d'abord rédaction, peut-être avant que de penser directeur. Pierre Gantz.
Alors déjà, il n'y a pas de Société des journalistes partout. Donc il y a des endroits, et c'est malheureusement le cas le plus courant, où les journalistes sont un petit peu seuls face, par exemple, à une direction ou à des pressions extérieures. Deuxièmement, vous avez employé qualifier l'idée d'un conseil de presse, le mot de censure et le mot de contrôle, l'un ou l'autre. Je rappelle simplement qu'un conseil de presse, il intervient sur quelque chose qui a été publié. Il intervient a posteriori. Donc il n'y a pas de censure et il n'y a pas de contrôle.
Est-ce qu'il y a une sanction ?
Non, il n'y a pas de sanction autre que dire, dans tel cas, ça aurait été peut-être bien de passer un coup de fil à Hervé Garnett pour qu'il donne son point de vue avant de lui prêter de parler de son émission. Voilà. Bon, cet exemple-là. Hein. Et pour le journaliste qui n'a pas posé une question et qui n'a pas fait ça, ça name and shame, disent les Britanniques. Mmh. Je pense que c'est pas une mauvaise formule. C'est une sanction morale, c'est une sanction publique sur votre propre image. Ça peut suffire. Vous savez, dans les pays où ces conseils de presse fonctionnent, qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté que, par exemple, un journal belge en avait assez d'être systématiquement condamné pour non-respect de la déontologie et avait mis un petit peu de côté le rédacteur en chef qui était un pouce au crime. Bon, il y a des confrères qui disent de temps en temps, assieds-toi sur la déontologie et passe cette photo même si tu sais, on veut pas savoir comment tu l'as eu. Donc, c'est vraiment a posteriori qu'il fonctionne. Et puis, vous avez cité la loi Bloch, vous avez cité la loi sur le secret des affaires. Moi, je voudrais dire que ces lois-là, elles sont venues pourquoi ? Eh ben, elles sont venues parce que la profession ne s'est pas prise en charge pour s'organiser avec le public pour se défendre. La loi Bloch, il y aurait un conseil de presse qui, comme dans d'autres pays, aurait établi petit à petit un code de déontologie général pour l'ensemble de la profession. La loi Bloch peut-être ne serait pas venue amener des codes de déontologie maison, dont certains sont très bons, et d'autres sont, pour être poli, assez creux.
C'est vrai que c'est quand même assez aberrant de dire qu'il a fallu attendre une loi particulièrement récente, pour que chaque rédaction se dote de ce genre de charte. La question, elle arrive enfin, de François Ehrenwein.
Mais moi, je me demande si, à travers toutes ces résistances à l'affichage de chartes ou de documents, il n'y a pas le cynisme pur et simple des directions qui pensent qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faille pousser les sociétés de journalistes, ou même vous, Pierre Gans, un peu plus l'explicitation du projet éditorial de chaque marque de presse. Et encore une fois, à partir du modèle que je dessinais tout à l'heure, estimer qu'elle est opposable par ceux qui consomment de l'information.
Il faudrait déjà que les chartes de presse soient accessibles. Moi, je me suis amusé à faire une
petite enquête. C'est une partie de la bataille.
Vous allez sur les sites des médias qui ont des chartes de presse. Bon, c'est pas le cas des Échos, on la trouve très facilement.
Mais sur beaucoup... Elle est tout en bas, en tout petit.
Mais on la trouve quand même. Moi, je l'ai cherchée, je l'ai trouvée facilement. Mais je ne la crois, je ne l'ai pas trouvée.
Oui, mais bon, ça reste à
France, faire. Radio France, c'est pas évident de la trouver. Et je vous cite pas d'autres journaux, vous êtes là pour vous défendre.
Mais ça prouve bien, Pierre, ça prouve bien que si on les trouve pas, c'est qu'elles gênent.
Mais parce qu'on est entre nous, journalistes, nous ne voulons pas être mis en cause. Et c'est le public qui nous interpelle, c'est le public qui a besoin de sociétés de journalistes ou de syndicats de journalistes qui défendent la déontologie et qui a besoin de conseils de presse. C'est pas nous les journalistes.
Leïla de Commarmont.
Vous parlez projet éditorial, moi je parle information des lecteurs. Donc, je pense que au-delà du projet éditorial, on a l'information des lecteurs qui est le ciment du travail du journaliste. Mais surtout, les sociétés de journalistes n'existent pas. Elles n'existent pas. Elles n'ont aucune reconnaissance par la loi. Donc, on a fait des associations, on bricole. D'ailleurs, il n'y a pas de protection pour les porte-paroles des sociétés de journalistes, ce qui peut freiner les carrières. Les syndicalistes, même avec protection, déjà ont des difficultés. Hein. Et donc, moi, mon souci, c'est ça. C'est ce sujet-là. C'est comment on fait pour qu'on puisse, que la rédaction puisse défendre les valeurs qui sont les valeurs de déontologie et d'indépendance dans un système où c'est une réalité. En France, ce sont des groupes industriels qui, pour beaucoup, sont propriétaires des journaux. Qu'est-ce qu'on fait pour aider à ce que les rédactions puissent continuer à faire leur travail? Et je suis désolée, mais ce conseil de presse, pour moi, ne servira pas à aider les rédactions à faire leur travail. Nous avons un sujet vis-à-vis des actionnaires, notamment, et que le conseil de presse ne permettra pas de résoudre.
Dans la croix du jour, j'ai oublié de le mentionner, dans lequel vous répondez l'un et l'autre à la question qu'on posait ce soir, faut-il noter les journalistes? Question prétexte pour aborder évidemment les questions plus larges qu'on a évoquées depuis le début de l'émission. Vous dites notamment, Leïla de Commarmont, que un des objectifs qui vous paraît essentiel, ça serait aussi peut-être pour aller contre cette défiance qui est bien réelle, de diversifier davantage la profession. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît aussi important?
Alors, diversifier la profession et les directions. Je vais encore vous citer les Échos.
Mais qui font partie de la profession. Quand on dirige une rédaction, on est aussi journaliste.
Bien évidemment. Donc, il y a un enjeu sur les journalistes de base, comme moi. Et il y a un enjeu aussi sur les directions des journaux. Nous sommes 56% de femmes à la rédaction des Échos. Il y a eu, grâce à une lutte des femmes il y a 5 ans, maintenant, il y avait 0 femme dans la direction rédaction en chef des Échos. Grâce à cette lutte, nous avons eu 26% de femmes. Nous venons de renégocier un accord pour obtenir, d'ici à 5 ans, qu'il y ait une parité. Ce combat n'est pas un combat purement individuel de femmes qui ont envie de faire carrière. Ça l'est aussi. C'est un combat parce que plus les rédactions seront diverses, plus elles seront représentatives de la société et plus elles seront en phase avec le lectorat.
Dans l'atelier que j'animais mardi dernier lors de cette réunion de Montrouge, il y a eu un constat qui a émergé, qui était de dire finalement les journalistes, ils sont aussi formés plus ou moins dans les mêmes écoles que les futures élites politiques et économiques. Pierre Gans, sur cette idée justement peut-être de diversifier davantage sociologiquement.
Vrai. C'est vrai que beaucoup de journalistes qui se passent par les écoles, c'est pas le cas de la majorité de ceux qui accèdent à la profession. Hein. C'est pas encore le cas, loin de là. Mais c'est vrai que certains ont des parcours à travers Sciences Po et autres. Bon. Mais beaucoup de journalistes arrivent aussi dans la profession, comme on dit, par le terrain, simplement avec des études supérieures ou pas, et deviennent journalistes sans passer par ces écoles. C'est mieux, c'est un autre débat, savoir s'il faut passer par une école. Mais c'est vrai qu'il y a chez... Le public identifie aux journalistes en général, essentialise les journalistes à partir de quelques personnes qu'il lit, qu'il voit à la télévision, qu'il entend à la radio. Et à partir de là, il dit ce sont les journalistes dans leur ensemble. C'est pas Leïla qui n'est pas du tout identifiable à cette population-là. Ça n'est pas vous non plus comme responsable de la Croix. Et c'est vrai que ces quelques personnes auxquelles le public identifie les journalistes, eux sont comment dirais-je, un peu en consanguinité avec les dirigeants du pays, les dirigeants des grandes entreprises. Là, il y a quelque chose qu'il faudrait changer. Et il faut effectivement ouvrir la profession de journaliste aux femmes et à d'autres catégories de la population.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, Pierre Gantz, Leïla de Commarmont et François Hernenwein, d'avoir participé à cette discussion dans le cadre de notre partenariat mensuel avec La Croix. Pour terminer, je voudrais signaler deux initiatives. Alors, une de La Croix, c'est Médias dans l'arène. C'est lancé à partir de ce jeudi. C'est une série de vidéos avec l'objectif de s'insérer dans les coulisses du traitement médiatique. C'est proposé par des journalistes de La Croix. Oui. Voilà, avec la première interview, c'est l'excellent historien des médias Alexis Lévrier. Puis, notre initiative, c'était hier à France Bleu Besançon, une journée de l'information de proximité avec trois auditeurs qui non seulement ont suivi pendant 24 heures le travail des journalistes, mais qui ont aussi fait des reportages qu'ils ont présentés ce matin dans la matinale. Voilà, il y avait des choses tout à fait intéressantes. On voit quand même qu'il y a des petites choses qui bougent. Voilà, merci à tous. Continuez à lire des journaux, La Croix, bien sûr, Les Échos, France Culture, ça s'écoute, ça se lit aussi parfois. Merci à l'équipe du Grand, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Fanny Richet, Antoine Dulster et Cyril Marchand, émission réalisée par Peyret Legras, avec à la prise de son Jean-Frédéric. Demain, ce sera un club des idées spéciales en direct du Bel Air, un club de la presse européenne pour parler de la campagne des prochaines élections. Dans 3 minutes, ce sera la dispute avec Arnaud Laporte. Et tout de suite, à 19h...